le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Manuel Valls, maire d'Evry et député de l'Essonne. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. Vous en êtes l'invité, Manuel Valls, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions de Pierre-Luc Séguillon d'LCI et d'Étienne Moujotte du Figaro. L'actualité se concentre autour de la prime versée par l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. C'est une fédération patronale adhérente du MEDEF, à Denis Gauthier-Sauvagnac, son ancien président, 1,5 million d'euros versés pour un départ à la retraite et aussi une préservation de poursuites juridiques dont Denis Gauthier-Sauvagnac pourrait être l'objet. Il y a peu de gens qui défendent Denis Gauthier-Sauvagnac, la prime qui lui est versée. Vous aussi, vous le critiquez, Manuel Valls?
C'est difficile de le défendre, parce que les mots qui me viennent à l'esprit, c'est indécence et révolte, parce qu'au fond, on a le sentiment que ces gens-là agissent en toute impunité, comme s'il ne se passait absolument rien.
Mais c'est légal? La prime, personne
ne
le dit.
Nous n'en savons rien.
Non, mais on ne sait pas non plus que c'est illégal. C'est-à-dire que c'est un arrangement à l'intérieur d'une association qui tout de même.
Nous n'en savons rien. J'ai lu une interview de la présidente du MEDEF qui s'interroge sur la légalité pour savoir si on peut verser une prime dans le cadre de l'UIM, si c'est dans le contrat. On s'interroge évidemment sur la couverture des frais juridiques, parce que soit il est responsable directement et donc il n'a pas à être protégé, soit il a agi sur instruction, et donc il faut savoir qui lui a donné ces instructions. Puis au fond, ce sont encore une fois des sommes qui passent sur la tête des gens au moment où beaucoup de Français sont en difficulté, souffrent, ont du mal à boucler leur fin de mois ou leur retraite. Donc ça donne un sentiment d'irresponsabilité, donc il y a forcément de la révolte, non pas de ma part simplement, mais des citoyens que je rencontrais encore ce matin sur différents marchés.
Pierre-Luc, à l'instant vous disiez que Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, s'interrogeait, elle va plus loin, puisque elle juge, pour reprendre ces termes, choquant, méprisant, méprisable, cette affaire. Est-ce que, en l'écoutant, d'abord vous approuvez ces termes, est-ce que vous la soutenez dans sa révolte, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un tournant au sein du MEDEF?
Je comprends la réaction, la réactivité même de Laurence Parisot. C'est d'autant plus logique que les hommes qui ont organisé, semble-t-il, cette transaction sont ceux qu'elle a mis elle-même à la tête de cette organisation patronale, en tout cas qui lui sont proches, comme Michel de Verville qui a présenté sa démission. Ils étaient là précisément pour tourner une page au sein de cette organisation patronale. Il semble qu'elle veuille aller plus loin pour réformer en profondeur le patronat français, tant mieux, parce qu'on a besoin effectivement d'éthique, de transparence, de moralisation. Mais je crois qu'il faudra être cohérent, surtout parce qu'il y a parfois d'autres affaires qui auraient mérité aussi l'indignation du MEDEF et de sa présidente. Je l'ai trouvé bien moins sévère, par exemple, sur l'affaire de la Société Générale et sur ces 7 milliards qui se sont envolés. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il faut réformer, il faut de la transparence, il faut de l'éthique dans le capitalisme français, et donc au MEDEF aussi de le dire et de le porter, mais sur tous les terrains, pas uniquement en son sein.
Vous dites qu'il faut de la transparence. Évidemment, on peut souhaiter savoir un jour comment a consisté la fluidité sociale dont parlait Denis Gauthier-Sauvagnac. Est-ce qu'on n'attendrait pas aussi davantage de transparence de la part des organisations syndicales, ouvrières notamment, qui ont pu être l'objet des gracieusetés de l'UIMM?
Attendons de savoir et d'en savoir plus. La justice est saisie sur ce dossier. Elle doit travailler en toute sérénité. À l'organisation patronale aussi de régler ses problèmes en interne, car nous avons tous compris qu'il y a aussi un conflit de pouvoir aujourd'hui entre cette organisation et le MEDEF. Mais vous avez raison. Il faut, comme on l'a fait pour les partis politiques, comme on l'a fait pour les campagnes électorales et les élus, il faut aussi qu'il y ait la plus grande transparence. Je pense qu'il faudrait des responsables syndicaux qui soient indemnisés, qui déclarent leur patrimoine, qu'il y ait de la transparence sur les fonds que les syndicats ou les organisations patronales ont.
Mais sur la transparence, est-ce que vous pourriez être d'accord avec une proposition que fait un de vos collègues UMP, Frédéric Lefebvre, qui dit au fond, il faudrait que ce soit les assemblées générales des groupes, des sociétés, qui discutent publiquement et qui décident des rémunérations des dirigeants.
Face à de telles sommes dans un capitalisme aujourd'hui mondialisé, avec ce souci de transparence qui touche toute la société française. Nous-mêmes élus, candidats, on nous demande, on nous somme de déclarer nos patrimoines. Nous les déclarons, mais ça n'est pas public. Mais la presse le fait, c'est normal. Et moi, je me prête volontiers à cet exercice de transparence parce que nos institutions, nos élites, comme on dit, les partis politiques sont touchés par la crise politique qui mine notre pacte républicain depuis des années. Et donc, ça doit toucher encore plus, évidemment, la sphère publique. Et je trouve que la proposition de Frédéric Lefebvre est plutôt intelligente. Elle concerne aussi bien les organisations syndicales et patronales que les entreprises, comme vous venez de le dire. Il faut cette transparence.
Frédéric Lefebvre fait une autre proposition. Je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à cette proposition. Il propose que lorsque on passe contrat avec un chef d'entreprise, au moment où on passe contrat, on détermine les indemnités de départ. Deux indemnités, l'une si la société est bien portante lorsqu'il s'en va, l'autre si elle est mal portante lorsqu'il quitte ses fonctions.
Je ne sais pas si on peut rentrer dans ce niveau de détail, mais en tout cas, ce qui choque encore plus, c'est que quand un dirigeant ou un responsable d'entreprise a failli, c'est qu'il puisse partir avec de telles enveloppes. Il y a celle-ci, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. On a tous des exemples en tête. Et puis, j'en appelle surtout au principe de responsabilité. Vous savez, quand un maire ou un responsable politique est en difficulté, quand il a fait une faute, soit il est sanctionné par les électeurs, soit il est démis par son organisation politique, soit lui-même est obligé de démissionner. C'est arrivé quand même plutôt souvent ces dernières années.
Soit il est représenté par son organisation politique. Enfin, il y a beaucoup de cas de figure. Hein. Je ne sais pas si les partis politiques, dans leur fonctionnement, peuvent être pris pour exemple.
Non, je ne le crois pas, mais
prennent la responsabilité.
En tout cas, ces dernières années, on a bien vu qu'il y avait quand même une volonté de transparence et d'assumer ce principe de responsabilité. Il doit toucher aussi le monde de l'entreprise. Et je pense que, par exemple, M. Bouton aurait dû démissionner de la tête de la Société Générale.
Même si ça n'a rien à voir avec l'affaire Gauthier-Soignac.
Non, mais encore une fois, c'est une question de responsabilité. Vous avez raison, ce sont deux choses tout à fait différentes. Mais c'est encore une fois le principe de responsabilité qui est directement concerné.
Oui, juste sur le cas de M. Bouton, rien ne dit qu'il ne démissionnera pas et qu'il est seulement rester pour permettre la recapitalisation de la société.
Ah ben, ça savait beaucoup plus que moi.
Je pose la question.
C'était une hypothèse. C'est une hypothèse. Et nous verrons si elle se vérifiera dans les semaines qui viennent. Sur le plan politique, on note depuis plusieurs semaines maintenant une chute spectaculaire de Nicolas Sarkozy dans les études d'opinion. 37% des Français lui feraient confiance, moins 4% donc par rapport au mois précédent, selon la dernière étude TNS Sofres Figaro Magazine. Cette descente de Nicolas Sarkozy dans les sondages, vous l'expliquez comment, vous, Manuel Valls?
Le président de la République, au lendemain de son élection, souhaitait un choc de confiance. Il fait face, en tout cas, incontestablement, à un choc de défiance dont sans doute l'ampleur est à la hauteur des espoirs, des espérances qui existaient au moment de l'élection présidentielle. Parce que, remettons-nous, il y a un an, inscription massive sur les listes électorales, intérêt pour la campagne, participation aux réunions publiques, suivi des débats, notamment entre les deux tours, volonté de tourner la page du 21 avril, c'est-à-dire de donner sa confiance plutôt à des partis qui ont gouverné ou qui voulaient gouverner, volonté de voir aussi une page se tourner, celle du chiracisme sans doute, d'avoir une nouvelle génération politique aux commandes du pays, un président, une présidente beaucoup plus actif, une participation massive au premier comme au deuxième tour et un résultat net en faveur de Nicolas Sarkozy après un débat que je juge de bonne qualité. J'ai appelé ça un printemps démocratique. Or, le choc est là, le choc de confiance.
Il tient plus à quoi ? À sa personnalité, à sa manière d'être ? Parce qu'on voit que le Premier ministre, lui, qui mène la politique, gagne plutôt en popularité. Donc c'est plutôt la personnalité de Nicolas Sarkozy qui est en cause ou pas ?
Nous y reviendrons. En tout cas, moi je constate qu'il y a une cassure profonde entre le président de la République et le pays. C'est un mélange de désarroi, de colère, de rancœur. Je ne crois pas que ça soit une question de style et de forme ou de méthode seulement, même si évidemment cela compte. Je pense que c'est une absence de stratégie. Le président de la République avait cru qu'il allait pouvoir arracher la croissance avec les dents. Il était le candidat de la hausse du pouvoir d'achat. Et dès l'été, face à une croissance qui s'est ralentie, à la crise financière due notamment, pas seulement au subprime, à la crise des subprimes de l'immobilier américain, à cette crise qui aujourd'hui touche la zone euro et notamment la France, il n'y a plus de cap, il n'y a plus de stratégie. On ne sait pas où est la France, au-delà des difficultés de vie chère, de pouvoir d'achat, du fait que les caisses sont vides, pour reprendre l'expression du pouvoir. Il n'y a plus de stratégie visible, il n'y a plus de cap, et le pays ne sait plus très bien où est-ce qu'il va. Et c'est ça aujourd'hui qui, me semble-t-il, frappe d'abord les Français, même si ensuite il y a évidemment des réactions sur des éléments beaucoup plus concrets de la politique du pouvoir.
parallèlement, comment est-ce que vous interprétez la hausse de popularité du Premier ministre? Est-ce que c'est une manière pour les Français de désavouer le Président de la République? Ou est-ce que c'est une façon de dire, bah, nous sommes d'accord avec le cap des réformes, continuer.
Je ne crois pas à cette thèse. Moi, personne ne me dit la politique menée par le Premier ministre est extraordinaire. Non, je crois que le Premier ministre a bénéficié au fond de l'effacement qui était le sien et qui lui était imposé par le Président de la République. Il y a un contraste de style, c'est incontestable, que le Premier ministre soit plus réservé, plus calme, plus politique au fond, de manière plus traditionnelle, notamment dans son rapport avec la majorité, c'est incontestable. Mais en même temps, ce que je sens dans le pays, c'est de la souffrance et de la colère, notamment sur la question du pouvoir d'achat et de la vie chère. Parce que vous me demandez quelles sont les raisons de cette descente. Mais il y a d'abord et de plus en plus le sentiment d'une forme de mensonge. On a été trompé. Au fond, les Français ont cru effectivement que le pouvoir d'achat allait être la priorité du gouvernement. Or, dès les premiers gestes, dès les premières mesures du gouvernement, je pense au paquet fiscal, on a avantagé ceux qui gagnent le plus dans ce pays.
Au fond, il y avait des mensonges.
On n'a pas donné une revalorisation, par exemple.
Il y avait des mensonges dans toutes les campagnes, parce que la candidate socialiste proposait le SMIC à 1 500 € et les 35 heures pour tout le monde. La situation financière du pays n'aurait pas permis de le faire non plus.
La crise financière.
C'est une façon de faire de la politique aussi, peut-être, qui doit être interrogée.
Mais la crise financière, le ralentissement de l'économie, une croissance plutôt faible ou atone, ce sont évidemment des éléments que tout pouvoir aurait rencontrés. Sans doute, la gauche, et notamment Ségolène Royal, aurait-elle mis l'accent plutôt sur la hausse des retraites, sur une renégociation des bas salaires et sur une priorité à l'investissement et à la recherche. Ce ne sont pas les choix qui ont été faits par Nicolas Sarkozy et sa majorité. Mais on explique ensuite au pays qu'il y a eu un ralentissement, qu'il y a une situation économique nouvelle qui nécessite de nouvelles mesures. Non. Encore une fois, le paquet fiscal, les choix qui ont été faits durs. Vous savez, quand vous faites campagne sur les titres de retraite et que l'une des premières mesures mises en place maintenant depuis le 1er janvier, ce sont les franchises médicales, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un sentiment d'une
mais
vaste
tromperie? Vous voudriez, vous, si vous étiez en charge, pour le pouvoir d'achat, augmenter le SMIC, augmenter les petites retraites et distribuer le pouvoir d'achat plutôt que de faire des réformes permettant de rétablir la compétitivité des entreprises.
Mais quelles sont-elles ces réformes? Vous les connaissez, moi je ne les connais pas, Étienne Moujotte. Il y a des réformes qui ont été engagées, je pense par exemple au régime spéciaux sur les retraites, on y reviendra peut-être, mais sur le reste, un vrai pacte avec les entreprises sur la question de l'innovation et de la recherche. C'est sur ce sujet-là que se joue la compétitivité de l'économie française. Nous savons que c'est le thème le plus important pour la France qui souffre d'un problème à la fois de compétitivité et de productivité. Les Américains mettent 2 ou 3 fois de plus par habitant en matière d'investissement sur la recherche. Tout se joue là, l'intelligence, l'université, la recherche. Regardons de près les efforts qui sont faits en Chine, notamment à Shanghai, ou en Inde, où se joue encore une fois l'avenir de la planète, les investissements de demain. C'est là-dessus qu'il fallait évidemment d'abord mettre la priorité, la compétitivité de nos entreprises.
Pour être objectif, vous devez reconnaître d'abord qu'il y a eu un effort, même si vous jugez insuffisant sur la recherche. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas tromperie de la part de la gauche lorsqu'elle ne cesse de répéter qu'il y a eu avantage aux plus riches, aux possédants, à travers la loi TEPA? Parce que l'essentiel a été consacré aux heures supplémentaires. Vous pouvez contester cette mesure, mais c'est quand même ce qui a été l'essentiel et pas du tout le bouclier fiscal qui
non,
doit représenter quelques 400
millions. La moitié a été consacrée aux heures supplémentaires, vous avez raison de le rappeler, mais encore une fois, quand vous dites « je suis le candidat du peuple », quand vous allez dans les entreprises, quand vous dites que vous allez être le candidat de la hausse du pouvoir d'achat et de l'augmentation des petites retraites, les premiers gestes d'un pouvoir jouent un rôle très important dans la confiance que vous créez avec les citoyens et dans la capacité que vous donnez ou que vous avez pour entraîner un pays. Cela n'a pas été le cas. Franchise médicale, les choix qui ont été faits notamment pour le bouclier fiscal, les chiffres sont toujours impressionnants. Ce sont 93 000 personnes qui sont essentiellement concernées, ceux qui payent l'impôt sur la fortune, et un certain nombre d'entre eux se font rembourser aujourd'hui encore. La presse quotidienne régionale a donné la liste des chèques qui ont été donnés à ceux qui payaient dans chaque région l'impôt sur la fortune. Alors, mais dans un moment où la vie est chère, la vie est difficile, vous parlez tous sur vos différents médias de l'augmentation des prix au quotidien dans les grandes surfaces, comment voulez-vous que les Français donnent leur confiance à ce pouvoir?
Et par ailleurs, il faut rappeler, ce qui est rarement fait, que le bouclier fiscal, c'est l'engagement pris par un État de ne pas prendre plus de 1 € sur 2 à un contribuable.
Oui, mais qui se rajoute au choix qui avait déjà été fait par la majorité précédente, c'est-à-dire les amis de Nicolas Sarkozy, avait déjà donné des moyens supplémentaires à ceux qui payent l'impôt sur la fortune.
Juste sur les franchises médicales, vous êtes bien conscient que le régime social doit être profondément réformé, le régime de l'assurance maladie. Quelles sont vos solutions ? Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations patronales, salariales, ou bien est-ce qu'il faut demander à ceux qui le peuvent un effort qui s'appelle une franchise médicale ?
Mais d'abord, je me permets de vous rappeler que c'est aujourd'hui Nicolas Sarkozy, François Fillon, sa majorité qui sont au pouvoir et qui se sont engagés à un certain nombre de réformes qui ne viennent pas. Deuxièmement, vous avez raison. La France, comme toutes les sociétés modernes, fait face à une évolution considérable qui change les repères, qui change notamment les repères de la gauche. C'est vrai à travers l'allongement de la durée de la vie, qui nous questionne donc sur la question du travail, comme sur la problématique des retraites. Et nous savons que sans doute il va falloir cotiser plus, travailler plus, et que nous devons faire des efforts dans ce sens, qu'il faut réformer notre système d'assurance maladie ou de sécurité sociale, et donc il faut effectivement ne pas mentir aux Français et trouver des moyens supplémentaires. On pourra utiliser parfois l'impôt ou la CSG pour financer par exemple la dépendance, qui est sans aucun doute le grand sujet de demain. Et puis sur d'autres sujets, on sait qu'il va falloir faire des économies, car nous ne pourrons pas arriver à tout financer, parce que les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les Français seraient alors insupportables. Et pour cela, nous avons besoin d'une négociation, d'un contrat avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'il faudra faire de toute façon. C'est incontournable au cours de cette année 2008.
En attendant que cela se passe éventuellement, est-ce que comme votre camarade Bruno Leroux, vous seriez partisan que les municipalités socialistes, en tout cas de gauche, qui sont élues demain, comblent cette franchise médicale pour les citoyens de leur ville ?
Ça me paraît difficile, ce plan financier. Autant je pense que les collectivités, villes, conseils généraux, conseils régionaux peuvent faire beaucoup en matière de développement économique, de politique éducative, de solidarité pour protéger nos concitoyens. Je ne suis pas sûr que nous puissions, en plus ce sont des sommes considérables, nous mettre à ce niveau. Attention, parce que les finances de nos collectivités territoriales sont parfois en difficulté, parce qu'à travers les transferts de compétences qui n'ont pas été suivis de transferts financiers, elles sont souvent en difficulté. Prenons un seul exemple, l'augmentation des denrées alimentaires pèse énormément aujourd'hui sur les sociétés ou les établissements publics qui fournissent nos cantines, et ça va se répercuter, cela peut se répercuter sur le prix de la restauration scolaire, de la cantine et donc de la fiscalité locale. Donc attention, parce que les finances de nos collectivités peuvent être très vite mises en difficulté.
Cette flambée des prix, vous seriez partisan d'un rétablissement du contrôle des prix ?
Non, évidemment.
Alors que faire ?
Mais écoutez, enfin, le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives pour mieux contrôler cette flambée des prix. Nous alertons à l'Assemblée tous les mardis et tous les mercredis le pouvoir depuis le mois d'octobre sur cette augmentation
des prix. Et pardonnez-moi, quand on dit contrôler la flambée des prix, on peut se battre et sanctionner les ententes illicite, bien sûr, mais pour le reste.
Bah, c'est déjà une première piste intéressante. Et puis agir, parce que tout simplement, dans le cadre de la concurrence, les consommateurs peuvent faire aussi des choix. Ce qui s'est passé, non pas depuis le mois de septembre, mais depuis le mois de janvier, est totalement scandaleux, où les grandes entreprises de distribution se sont entendues pour cette augmentation qui est majeure et qui se répercute à la fois pour nos entreprises, mais aussi pour les consommateurs.
Sur un point précis, est-ce que vous êtes favorable à ce que on permette aux grandes surfaces de s'installer comme elles le souhaitent et non pas que ça soit réglementé comme ça l'est aujourd'hui, ce qui est un obstacle incontestablement à la concurrence, puisque vous le savez, dans certains endroits, il y a une seule enseigne qui est en position de monopole à travers plusieurs enseignes. Enfin,
c'est pas ce que je vis dans le département de l'Essonne ou dans la ville dont je suis maire à Évry.
C'est vrai dans d'autres villes, monsieur.
Peut-être, mais en tout cas, je vois le nombre de mètres carrés explosés de surface commerciale, un point inimaginable, comme si le panier de la ménagère pouvait faire face à autant de mètres carrés. Je ne le crois pas. Non, je crois qu'il faut, en tout cas, une réglementation. Elle peut être adaptée selon les départements pour faire vivre la concurrence, mais en tout cas dans les grands départements urbains, cela me paraît totalement invraisemblable. Il faut au contraire une organisation de la concurrence. Il faut que les commissions départementales jouent un rôle important pour l'installation des grandes surfaces.
Nous évoquions tout à l'heure l'impopularité du président de la République. On ne comprend pas toujours la stratégie de l'opposition face à ce phénomène politique. Par exemple, Ségolène Royal, dans Le Monde l'autre jour, parlait d'un vent de révolte qui soufflait sur la France. Comment vous voulez utiliser cette impopularité ? popularité, le quinquennat doit quand même aller à son terme. Parler d'un vent de révolte, c'est peut-être un peu beaucoup, non?
Nous sommes là depuis 10 mois.
Oui.
Après cette élection présidentielle, les élections municipales dont nous parlerons ne sont pas un troisième tour de l'élection présidentielle. Ça n'est pas non plus une revanche. Il y a une colère sourde, incontestablement. Mais le président de la République est là pour 5 ans. Il a été élu de manière tout à fait légitime. C'est à lui d'entendre le message. Je sens de sa part une forme d'autisme dans la politique qui est la sienne, dans le comportement qui est le sien. Donc il faut que le message qui monte de la part des Français à travers les enquêtes d'opinion, on le verra sans doute les 9 et 16 mars prochains, à l'occasion des municipales et des cantonales, soit entendu par le pouvoir. Moi, je ne veux pas participer à une hystérie à l'égard du président de la République.
Il y a de l'hystérie?
Je ne le crois pas. Je crois que c'est un des arguments utilisés notamment par la majorité, par la droite, pour contrer les critiques. Encore une fois, il y a les critiques de l'opposition, mais il y a ce que ressentent profondément les Français. Et ce sentiment, encore une fois, au fond, il y a une forme de duperie, de tromperie, de mensonge entre le message de l'élection présidentielle après la campagne telle que je l'ai décrite, après ce que nous avions connu au cours de ces dernières années, cette crise politique qui a secoué le pays, c'est ça, moi, qui me frappe essentiellement.
Un certain nombre de vos amis, et d'autres d'ailleurs, ont signé cet appel à la vigilance républicaine. La dérive du pouvoir personnel, le risque de mise en cause de la démocratie. Il n'y a pas un peu d'excès tout de même dans cette approche-là? D'ailleurs, vous ne l'avez pas signé, vous.
Il y a une dérive...
Peut-être on n'a pas demandé.
Les deux. Il y a une dérive, sans aucun doute, au sein même des institutions de la Ve République. Quand Lionel Jospin a mis en place ou a créé les conditions de la mise en place du quinquennat et de l'inversion du calendrier, qui a donné encore plus de pouvoir au président de la République, sans la contrepartie, c'est-à-dire le contrôle que peut exercer le Parlement ou le contrôle que peuvent exercer les citoyens, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que le président de la République exerce totalement aujourd'hui ce pouvoir.
Donc, mais il le est projet temps... de révision constitutionnelle prévoit justement.
Nous verrons bien. En tout cas, je pense que les socialistes et la gauche, d'une manière générale, auraient tort de se priver de la possibilité de donner, si c'est le cas, nous n'en savons rien encore, plus de pouvoir, de contrôle et d'initiative au Parlement et plus de pouvoir aussi de contrôle de la part des citoyens. Il ne faut pas rater ce type d'occasion. Qu'il y ait une dérive personnelle dans l'exercice du pouvoir, on le voit avec le rôle des conseillers du président de la République, la manière dont il s'exprime, le court-circuit d'un certain nombre de ministres.
C'est
la manière dont
président.
Le Premier ministre et les ministres ont été...
C'est pire qu'avec François Mitterrand, par exemple, au hasard, ou d'autres?
Je crois que cela a changé pour des raisons d'abord dues au quinquennat, à la vitesse aujourd'hui de la communication, de l'exercice du pouvoir, aux temps qui ont changé, à la mondialisation, sans doute cela au caractère aussi de l'actuel président de la République. Mais je n'aurais pas signé, je réponds très directement à votre question, je n'aurais pas signé l'appel à la vigilance, d'abord on m'a demandé, et deuxièmement je ne l'aurais pas signé, parce que je crois que le moment n'est pas venu, et j'espère qu'on ne connaîtra pas ce moment, un front républicain vigilance, il faut être toujours vigilant par rapport aux institutions de la République et la manière dont le président de la République a réagi à la décision du Conseil constitutionnel sur
la rétention
de sûreté, ne me paraît pas être une bonne manière faite aux institutions. Il doit mieux respecter le Parlement, aussi bien sa majorité que l'opposition. Cela est évident. Il doit respecter aussi les Français. J'ai le sentiment parfois que le président de la République est en train de tuer même l'idée de réforme par les annonces qui sont faites sans concertation, sans consultation. C'est vrai sur l'audiovisuel public, c'est vrai sur l'enseignement de la Shoah, pour ne prendre que ces deux thèmes qui étaient dans l'actualité et qui sont toujours dans l'actualité récente. Il faut être vigilant. Mais attention, nous ne sommes pas effectivement aujourd'hui dans une dérive dictatoriale. Et d'ailleurs, signer un appel avec Dominique de Villepin, qui est pratiquement l'un des principaux opposants aujourd'hui du pouvoir, et qui a quand même donné, on verra ce que dit évidemment l'enquête judiciaire, drôle d'exemple sur la manière dont on utilise les services secrets pour mener une guerre fratricide au sein même de la majorité au cours de la législature précédente, ça me paraît pas forcément être un très bon signe.
C'est ce qu'ont fait Ségolène Royal et Bertrand Delanoë qui ont signé cet appel. Un complément, Étienne?
Non, juste un point. Est-ce que vous pensez pas que c'est une bonne chose qu'un socialiste préside la commission des finances et que c'est un pas, un petit pas mais un pas important, vers un peu plus de pouvoir au Parlement et un peu plus de pouvoir à l'opposition?
Il faut continuer alors. C'est une première étape. Et moi, je souhaite qu'effectivement, sur l'évaluation des lois, sur l'initiative dans l'ordre du jour de la part du Parlement, sur le respect de l'opposition, y compris sur le fait qu'il y ait une répartition à la proportionnelle de la présidence des commissions, comme cela se fait dans tous les parlements modernes, oui, on peut aller plus loin sur le contrôle de l'exécutif. De ce point de vue-là, Didier Migaud joue incontestablement un rôle important à la tête de la présidence de la commission des finances.
C'est ce qu'on réclame toujours quand on est en opposition et qu'on ne le fait jamais quand on a la majorité.
Il faudra le faire, mais encore une fois, après, je fais partie de ceux qui pensent et qui sont interrogés, qui d'ailleurs est d'une certaine manière subvenu à la vie politique dans ces conditions-là et pris des responsabilités au cours de ces dernières années. Je le répète, au moment où il y avait une crise politique majeure qui s'est traduite par l'abstention, le rejet des partis de gouvernement, la montée de l'extrême droite, je pensais qu'on avait tourné cette page, et dans la crise que connaît le pouvoir, ce qui donne encore plus de responsabilité peut-être à l'opposition et à la gauche, il y a nécessité de réfléchir sur ce qui se passe et d'être au clair aussi sur la vérité, sur les réformes à faire, sur le niveau de nos déficits publics, ce qui veut dire qu'on ne peut pas promettre tout, et de regarder la mondialisation telle qu'elle est et les évolutions de la société française au cours de ces dernières années. Donc il y a aussi, pour l'opposition, une grande responsabilité à éclairer maintenant l'avenir et à préparer l'alternative.
Mais pour le pouvoir, quand vous dites que Nicolas Sarkozy devra entendre le message qui sera délivré lors de ces municipales, est-ce que ça signifie dans votre esprit, par exemple, qu'il devra ne pas réformer les retraites et allonger le temps de cotisation, cesser de réduire le nombre des fonctionnaires, changer de style, obliger ses conseillers à ne pas parler, et j'allais ajouter, question subsidiaire, ne pas poursuivre l'ouverture avec, par exemple, l'entrée au gouvernement de Claude Allègre.
Manuel Valls.
Un peu tout ça, sans doute, mais revenons à des exemples très précis. Et revenons à l'idée que je me fais aujourd'hui de la rupture qui est en train de se créer entre les Français et le président de la République. Il faut redonner un cap, il faut redonner du sens, c'est ce que les Français attendent de la part du président de la République. 15 engagements au moment de la campagne présidentielle, 30 de nouveau au moment du discours sur la civilisation, 300 propositions faites par le rapport
Attali. Moi, je vous ai parlé de deux engagements très précis.
Et donc, on ne sait plus retraites. Très bien où va le pays. Et le rôle du président de la République, au moment où, en plus, il y a cette crise économique qui touche la France, il est temps de donner un cap. Il faut des réformes. Et ces réformes doivent être discutées avec les partenaires sociaux, avec l'opposition, face aux Français. C'est vrai pour le financement de l'assurance maladie, c'est vrai pour la nécessaire et inéluctable réforme des retraites, à condition qu'on engage véritablement, puisqu'on nous en parle depuis des années et qu'on ne le fait pas, le dossier de la réforme des retraites, mais aussi celui de la pénibilité au travail et celui de la qualification des salariés, parce que c'est avec la question de la compétitivité et de la recherche, sans aucun doute, l'un des principaux sujets auxquels doit faire face l'économie française.
Pierre-Luc l'a cité parmi ses exemples, on évoque à nouveau l'ouverture après les élections municipales, peut-être, tiens, Claude Allègre, le président de la République l'a cité la semaine dernière et qui pourrait rentrer au gouvernement, ça serait un coup dur de nouveau pour vous?
Je ne le crois pas, surtout si c'est Claude Allègre, mais je crois...
Ah bon?
Pourquoi? Mais je pense
que plus au Parti Socialiste.
Parce que je crois que la confusion entretenue par l'ouverture ne sert pas le débat démocratique. Nicolas Sarkozy a mené une campagne assez nette, assez claire sur les valeurs de la droite il y a un an. Chacun s'en est félicité. On sentait qu'il y avait, d'une certaine manière, un peu plus de clarté dans le débat politique après la confusion des années Chirac. L'ouverture est là uniquement faite pour déstabiliser l'opposition. On voit que ça n'a pas réussi, qu'il n'y a pas beaucoup de candidats aujourd'hui pour aller au gouvernement. Et honnêtement, Claude Allègre, que je connais bien, qui a été collaborateur et ministre de Lionel Jospin, se perdrait comme d'autres dans ce type d'aventure.
Il déstabiliserait un gouvernement de Nicolas Sarkozy?
Peut-être. Rappelons-nous qu'il n'a pas été forcément un grand ministre de l'Éducation nationale, en tout cas dans sa capacité à dialoguer avec les enseignants. Et si l'Éducation nationale a besoin évidemment de réformes, elle a aussi besoin de dialogue. Je ne suis pas sûr que l'arrivée de Claude Allègre au gouvernement, peut-être sur ce type de poste, soit une très bonne nouvelle pour les enseignants, mais aussi pour le pays.
Vous pensez si que nous écoutons, il va être content. Négocie mieux avec les enseignants.
On va faire une pause et on écoute les informations.
C'est la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité Manuel Valls, maire d'Evry et député de l'Essonne, le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL. Dans une semaine exactement, Manuel Valls, les Français vont voter pour le premier tour des élections municipales. Et tout à l'heure, au détour d'une phrase, vous avez paru vous dissocier de vos amis socialistes. Certains d'entre eux, du moins, qui disent que ce scrutin servira d'avertissement au gouvernement.
C'est d'abord un scrutin local. les Français sont attachés à l'institution, au maire, c'est le responsable public, politique, auquel ils sont le plus proche qu'ils peuvent rencontrer. Il y a ce besoin de proximité, il y a une confiance d'ailleurs dans l'institution municipale, et puis les mairies comme les conseils généraux jouent un rôle très important dans la vie quotidienne de nos concitoyens en matière d'école, de transport, de route, d'environnement, d'action sociale. Donc respectons d'abord ce débat local, et je le vois ainsi dans ma ville à Évry, mais partout il y a ce rapport au terrain, au territoire, qu'il faut évidemment préserver. Et en même temps, ne soyons pas hypocrites. Quand on convoque une élection, quand on déplace le corps électoral, dans le contexte politique, économique que nous venons de décrire, il est normal, c'est toujours le cas, qu'on tire les leçons de ce scrutin. Et je sens de toute façon ces derniers jours, de la part de beaucoup de nos concitoyens, l'idée aussi qu'ils vont sans doute faire passer un message au pouvoir. On peut mélanger les deux, on peut additionner les deux messages, en tout cas, scrutin local et scrutin national, mais encore une fois, ce n'est pas le troisième tour de l'élection présidentielle.
Mais vous reprendriez l'expression de François Hollande, bulletin de vote, bulletin de notes pour Nicolas Sarkozy ?
François Hollande est toujours habile et à la formule intelligente. Oui, les deux sont vrais. On vote pour une élection locale et en même temps, c'était le cas aussi en 2001. Rappelez-vous les questions de sécurité, une première inquiétude sur la situation économique qui se dégradait à la fin de la législature de Lionel Jospin, et les municipales ont été l'occasion de faire passer aussi des messages au pouvoir. Peut-être qu'à l'époque, nous ne l'avons pas assez analysé et entendu. Donc, attendons encore une fois le scrutin pour tirer les uns et les autres, la majorité comme l'opposition, toutes les leçons sur cette élection. Moi, j'espère surtout que nos concitoyens iront voter, parce que dans le climat politique de défiance que je décrivais, avec ces affaires financières que nous avons évoquées au début de l'émission, je sens une forme de retrait de la part de nos concitoyens. Ils sont passionnés par la vie politique. Les Français aiment la politique. Ils aiment aussi leur vie locale. Mais attention, je sens de la part notamment de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui souffrent, une forme de retrait, de désintérêt par rapport à la chose publique. Donc il faut que demain, dans une semaine, comme dans deux semaines, mais surtout le 9, ils aillent voter partout, parce que c'est une élection importante pour chaque ville, mais pour le pays aussi.
Est-ce que vous avez peur que un certain triomphalisme du Parti Socialiste nous cause une démobilisation de ses propres électeurs? On a entendu ici même François Hollande dire, au fond, notre objectif atteignable, c'est 30 villes de plus de 20 000 habitants.
Bon, je crois qu'il est revenu sur ce chiffre. Il ne faut pas se laisser griser, entraîner.
Il l'a dit aussi. Donc
il ne faut pas se laisser griser. Mais en tout cas, c'est moi qui réponds. Il ne faut pas se laisser griser, entraîner par les sondages. Il faut respecter les électeurs. Chaque ville, chaque territoire a son histoire, son rapport aux candidats, au programme. Il faut être extrêmement respectueux, comme je le suis moi, des Évriens. Il faut être extrêmement respectueux des électeurs.
Dans cette, ce que vous appelez peut-être ce retrait de certains électeurs, est-ce qu'il n'y a pas le fait que ça manque un peu de clarté? Je pense notamment, par exemple, au problème des alliances. Le Parti Socialiste fait, dans quelques villes, alliance avec le MoDem. Dans d'autres, le MoDem fait alliance à droite. D'ailleurs, le MoDem fait ses propres listes. On n'arrive pas à bien comprendre quelle est la stratégie d'alliance du Parti Socialiste par rapport au parti de François Bayrou.
Je vous propose de poser d'abord la question à François Bayrou, parce que c'est quand même lui qui effectivement était à la tête d'une formation qui fait beaucoup d'alliances à la carte. Dans la plupart des cas, le Parti Socialiste rassemble toute la gauche. C'est ce que je fais d'ailleurs à Évry. Vous savez, parfois on me qualifie de droitier du Parti Socialiste. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire comme thème, si c'est regarder clairement la société en face, avoir un discours clair sur les questions économiques d'entreprise ou de sécurité. Je suis preneur de ce type de qualificatif qui ne veut rien dire et qui vise tout simplement à disqualifier celui qui pense qu'il faut que la gauche se réforme profondément. Mais je rassemble toute la gauche. Et c'est ça qui me paraît important, parce que la gauche veut dire encore quelque chose dans ce pays. Dans d'autres villes, le Parti Socialiste a décidé de s'allier sur la base de son projet avec des centristes, avec le MoDem, qui est au clair sur la nécessité soit de poursuivre une action, comme c'est le cas à Dijon, soit de changer complètement dans d'autres villes. Mais la question se pose d'abord au MoDem.
Est-ce qu'il n'y a pas... on peut poser la question au MoDem, mais puisque vous, vous êtes au Parti Socialiste, on pose la question au Parti Socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie de la part du Parti Socialiste au niveau de ses instances dirigeantes, en disant pas d'alliance avec le le MoDem, on ne peut pas le savoir. Et puis, dans des villes, effectivement, comme Dijon, comme Grenoble ou d'autres, alliance avec le MoDem. Je crois que c'est Vincent Payon qui dit on retombe dans une nouvelle hypocrisie au sein du Parti Socialiste.
J'aurais souhaité, au cours de cet automne, un débat clair sur les alliances. Parce que dans l'histoire du Parti Socialiste, dans l'histoire de la gauche, en général, la question des alliances se fait sur la base d'un projet pour le pays, sur la capacité aussi des socialistes à rassembler, au-delà, car nous savons qu'il faut rassembler demain pour l'emporter une majorité des Français. Ce débat n'a pas eu lieu et on a laissé, au fond, les candidats sur place, sur le terrain, organiser ces alliances. Je le regrette, je ne vais pas reprocher à des candidats ou à des maires sortants, comme Michel Destot à Grenoble ou François Rebsamen à Dijon, qui ont réussi à rassembler au-delà des rangs, à entraîner une partie des centristes, qui ont représenté quelque chose à travers la candidature de François Bayrou à l'élection présidentielle. Je ne vais pas leur reprocher d'opérer ce rassemblement.
Vous regrettez l'absence de ce débat, mais si ce débat avait eu lieu, quelle aurait été votre position, je dirais, de fond sur la possibilité d'alliance de long terme avec le MoDem?
Je crois que nous devons d'abord partir de nous-mêmes, parce que tant que la gauche et le Parti Socialiste, plus particulièrement, n'auront pas redéfini leur corps de doctrine, leurs projets, leurs propositions concrètes en matière de retraite, d'université, de recherche, de sécurité, d'immigration, de nucléaire, des thèmes qui n'ont pas été clarifiés, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle. Et les Français ont cru, peut-être à tort, que nous étions moins préparés que Nicolas Sarkozy à exercer le pouvoir. Avec ce que je vois depuis quelques mois, je me dis que Nicolas Sarkozy a mené une belle campagne, mais qu'il n'a jamais pensé véritablement l'exercice du pouvoir. Mais en tout cas, il faut que nous soyons au clair sur ces questions-là. Et quand nous serons au clair sur ces problématiques-là, se pose ensuite la problématique des alliances. Et je crois qu'il faut d'abord partir de nous-mêmes, de notre identité, de notre projet, de nos propositions, avant de formuler les alliances au plan national. Au plan local, Jean-Michel Apathy, c'est ce qui se passe.
Si vous partiez de vous-même...
Nos candidats... Si ont formulé des propositions et sur ces bases-là que les alliances se sont faites.
Si vous partiez de vous-même et de l'identité qui est la vôtre, c'est-à-dire de ce que vous êtes devenu au fil du temps, il y a longtemps par exemple que vous n'auriez plus d'alliance avec le Parti communiste parce que les points communs avec le Parti communiste ont tendance à disparaître.
C'est pas vrai au niveau
au
local.
Fil du temps.
C'est pas vrai au niveau local sur le soutien à nos écoles, sur les politiques sociales qui se mènent au niveau départemental, sur la question du développement durable. Aujourd'hui, la gauche peut se retrouver sur ces questions-là. Il y a évidemment des points communs, mais c'est vrai.
Même avec
il faut sans doute reviser aujourd'hui, réviser notre corps de doctrine, notre projet. C'est toute la tâche qui nous attend dans les mois qui viennent.
Sur plusieurs listes, il y a des candidats de lutte ouvrière. On a vu par exemple Julien Drey faire un meeting commun avec Arlette Laguiller. Ça vous semble être réaliste, c'est-à-dire tenir compte des proximités qui sont les vôtres avec ce parti, ou alors totalement opportuniste?
Bâtir des majorités, ou en tout cas des rassemblements uniquement contre, ça peut être utile quand on conteste la politique économique, budgétaire ou sociale d'un gouvernement. Mais quand on opère ce rassemblement, moi je me pose toujours la même question. Est-ce que nous sommes capables ou non de gouverner ensemble? Avec les Verts, avec les communistes, nous avons gouverné des villes, nous gouvernons des régions, nous avons y compris gouverné le pays ensemble. Jamais avec l'extrême gauche. Et donc je me méfie, moi, de cet engouement dans quelques endroits très minoritaires, et de la volonté, mais ça ne m'étonne pas de Julien Drey, de rassembler au sein du Parti Socialiste tous les courants trotskistes.
Précisément, monsieur Valls, vous êtes un des chefs de file des réformateurs du Parti Socialiste. C'est incontestable et c'est reconnu. Et vous avez, il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, dit « Ségolène Royal est la seule qui puisse faire bouger les lignes du Parti Socialiste ». Est-ce que ça veut dire que vous vous rangez derrière sa bannière, à la fois au sein du Parti Socialiste et puis pour le futur?
Mais je l'ai dit en connaissance de cause, parce que Ségolène Royal, à travers la campagne interne pour la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle, a fait bouger les lignes, a eu des intuitions sur les 35 heures, sur la sécurité à travers l'ordre juste, sur la nation, sur la famille. Et ensuite, parfois on en est resté les uns et les autres. C'est une responsabilité collective, aux intuitions, parce que nous n'avons pas assez travaillé notre projet au cours de la législature précédente. Nous avons été grisés d'ailleurs par la victoire des régionales et des cantonales et des européennes de 2004. Donc ça devrait nous inciter à être prudents et au contraire, si les résultats ne sont pas trop mauvais la semaine prochaine ou dans 15 jours, à se dire... la responsabilité pour préparer demain l'alternance est encore plus importante pour nous. Elle a fait bouger ses lignes. Elle n'est pas liée à l'histoire du Parti Socialiste et au courant né au Congrès de Metz ou Congrès de Rennes. C'est de la préhistoire pour beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs. Et donc, elle a envie de porter cette rénovation. Mais moi, je vais vous dire franchement les choses. Je me prononcerai sur le fond seulement. Qui demain, individuellement, collectivement, sera capable de porter un projet de rénovation profonde de ce qu'est la gauche? Parce que vous savez,
la gauche... un peu dilatoire. Hein, parce que le problème que vous risquez de rencontrer, peut-être que c'est la réalité, mais la réponse est un peu dilatoire. C'est-à-dire que le problème que le Parti Socialiste va rencontrer après les élections municipales, c'est de savoir comment il organise son congrès. Et donc, probablement, il y aura à choisir entre Ségolène Royal, qui proposera une ligne politique, et Bertrand Delanoë, qui en proposera une. Peut-être d'autres, hein, peut-être Julien André, peut-être Moscovici. Il faudra choisir aussi un individu qui représente une ligne politique.
C'est vrai, mais je vais vous répondre là aussi le plus franchement possible. Mais d'abord, je pense que le problème qui se pose à la gauche française est à peu près celui qui se pose à toute la gauche européenne et mondiale. Comment regardons-nous la globalisation économique? Quels sont les instruments de régulation de celle-ci? Comment on redistribue autrement les richesses? Ça vaut pour le monde, ça vaut pour l'Europe, ça vaut pour notre pays. Je vais vous prendre un seul exemple. Nous sommes en pleine campagne des municipales et des cantonales. Personne n'aborde la question de la réforme de la fiscalité locale. Or, sans réforme de la fiscalité locale, il n'y a pas de solidarité entre les territoires et entre les individus. Ce n'est pas un sujet qui intéresse et pourtant il est primordial. Nous avons la fiscalité locale la plus injuste aujourd'hui parce que ce pays, aucune majorité de droite ni de gauche n'a eu le courage de réformer les bases locatives. On paye des impôts plus lourds dans les quartiers populaires d'Evry qu'au cœur de Paris. Donc il y avait bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, ce sont des réformes concrètes sur lesquelles la gauche pourrait aussi travailler et j'espère qu'elle aura l'occasion de le faire dans les années qui viennent. Et mais je veux avant tout que la gauche réfléchisse sur son identité, son projet, ses propositions, qu'elle parle aux Français, même si encore une fois, et je vous réponds donc très directement, dans le cas des institutions de la Ve République, avec la nécessité d'avoir un leadership fort face au président de la République, mais parce qu'il y a aussi le quinquennat qui raccourcit le temps, parce que nous sommes dans un monde de communication, il faut aussi un leadership fort. Et sans leadership fort, il n'y a pas de rénovation possible. Ne soyons pas hypocrites, puisque vous avez utilisé ce mot, dans l'autre rapport, dans notre rapport aux institutions de la Ve République, il faut un leader fort à la tête du Parti Socialiste et non pas un rassemblement qui esquive tous les problèmes ou un premier secrétaire qui est uniquement là pour attendre que ça se passe et notamment le rendez-vous de 2010 pour désigner notre candidat. Ça serait une faute. Il faut mener les deux en même temps. Leader fort, réforme de notre corps, de doctrine, de nos propositions à faire aux Français.
Oui, mais alors justement, je suis votre raisonnement. Est-ce que le leader fort va surgir du débat d'idées ou est-ce que c'est le leader fort qui permettra enfin le débat d'idées et le rassemblement des socialistes autour d'un corps de doctrine? Quand on regarde l'histoire, on voit par exemple que dans les années 70, c'est bien Mitterrand qui a réussi, après avoir rassemblé les socialistes, à faire émerger un vrai projet.
Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Dans l'histoire de la Ve République, dans l'histoire politique tout simplement, il faut des leaders forts. Ça a été
donc
vrai avec Blair en Grande-Bretagne, c'était vrai avec Schröder en Allemagne, ça a été vrai avec Mitterrand et Jospin à gauche. Et à chaque fois que le Parti Socialiste a été en difficulté, ces dernières années, c'est qu'il n'avait pas de leader fort pour aller...
Donc la question, entre Ségolène Royal ou Bertrand Delanoë, celui qui vous paraît le plus à même d'amener votre famille politique là où vous souhaitez qu'elle aille, c'est-à-dire vers sa rénovation?
Vous allez me dire que je vais faire une réponse dilatoire, mais sans doute les deux ont cette capacité.
Il n'y a qu'un siège, c'est ça
oui,
le problème.
Mais les deux ont aujourd'hui un rapport avec l'opinion suffisamment fort pour correspondre à ce leadership fort que j'évoquais.
Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux quand vous les regardez, vous vivez avec eux, l'un et l'autre ont été... Vous vivez politiquement. L'un et l'autre...
C'est vrai qu'ils sont tous les deux venus à Évry et à Corbeil-Essonne nous soutenir.
Quelle différence entre les deux, quand vous les regardez? Quelles sont les différences entre les deux, d'après vous?
Mais tout simplement, écoutez, aujourd'hui, Bertrand Delanoë est candidat à la mairie de Paris. Il est concentré sur sa campagne. Ségolène Royal est aux côtés de beaucoup de candidats. Elle a peut-être plus de liberté de parole. Elle a été C'est pour moi évidemment un atout important. Elle a été la candidate des socialistes et de la gauche à la dernière élection présidentielle. Elle a rassemblé 47% de Français au deuxième tour. Elle a noué un rapport avec les Français. J'ai le sentiment que par rapport aux grandes questions aujourd'hui qui se posent à la France et au monde, à la nécessité de briser un certain nombre de tabous, de revoir notre corps de doctrine sur deux sujets essentiels que sont le travail, la réforme nécessaire de l'État providence pour en faire un véritable État prévoyance sur les problèmes de l'autorité, de la sécurité, j'ai le sentiment que Ségolène Royal a fait des propositions qui paraissent intéressantes pour faire évoluer, encore une fois, la pensée, le corps de doctrine, le projet, les propositions des socialistes. Mais Bertrand Delanoë, à la tête de la mairie de Paris, fait preuve aussi de modernité.
Enfin, si
pourquoi voulez-vous me sommer à une semaine des élections municipales, mais si vous m'avez invité à cette date, de faire un choix? Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois le débat
fait,
d'idées.
Vous l'avez presque fait là. Hein,
non, le débat
vous réécouterez,
parce
mais
que
vous l'avez presque fait là.
Je suis objectif. Il y a quelque chose à laquelle je ne participerai pas. C'est toutes les tentatives d'impeachment, d'empêcher un leadership fort d'émerger, de dire non, ni Ségolène Royal, ni Bertrand Delanoë, parce qu'il faut en préparer un autre, parce qu'il faut en attendre un autre, parce que ni l'un ni l'autre ne correspondent à ce qu'on souhaite pour des raisons internes au Parti Socialiste. Non, encore une fois, dans le cas des institutions qui sont les nôtres, dans le monde tel qu'il est, face à Nicolas Sarkozy, à 4 ans de l'élection présidentielle, on a besoin d'un leadership fort et pas d'une énième candidature pour, encore une fois, gérer le Parti Socialiste.
Donc,
qui a
si
besoin...
Bien entendu, le leader fort que vous choisirez pour le prochain congrès, qui sera le premier secrétaire du Parti Socialiste, vous avez peu de mois d'ailleurs pour le choisir, parce que ça va être quoi, 6 mois, 7 mois, l'organisation du congrès?
Je ne connais pas le calendrier, probablement d'ici la fin de l'année, en tout cas, c'est prévu pour l'automne.
Sera naturellement le candidat à la présidence de la République. En 2012.
On ne sait jamais, parce que d'ici à l'élection présidentielle, 4 ans, c'est pas beaucoup, et en même temps, c'est long. Oui, écoutez, c'est ce qui s'est fait à chaque fois avec François Mitterrand, comme avec Lionel Jospin, et ce dernier n'avait pas tort d'écrire dans un livre sévère, mais parfois juste, que François Hollande aurait dû se saisir de cette candidature comme premier secrétaire. Ça prouve bien que celui qui a la tête d'un parti, d'un grand parti, du premier parti de ce pays, doit effectivement porter les espoirs, les projets, les propositions vers les Français.
Et cela nous ramène un instant sur les alliances. Pensez-vous qu'il sera possible pour le candidat socialiste de gagner la prochaine élection présidentielle sans faire une ouverture au centre? Et deuxièmement, est-ce que l'hypothèse de Mme Royal d'aller de Beauvais à Bayrou est quelque chose qui vous paraît réaliste?
Il devra rassembler en tout cas toute la gauche et évidemment rassembler bien au-delà des rangs de la gauche. Mais encore une fois, sur la base d'un projet qui soit clair. Tirons par exemple les leçons de ce qui s'est passé en Italie. Quand on rassemble de l'extrême gauche à l'extrême centre ou à la démocratie chrétienne qui ne voulait pas de Berlusconi, on s'impuissante quand on gouverne. C'est ce qui s'est passé avec la chute du gouvernement Prodi. C'est donc en partant d'abord de notre projet et de nos propositions, en imaginant sans doute, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir un questionnement sur le premier secrétaire automatiquement candidat à l'élection présidentielle, parce que je crois qu'en 2010, il faudra aussi peut-être étudier l'idée de convoquer le corps électoral de gauche à travers des primaires, comme l'ont fait les Italiens, pour désigner notre candidat. Je crois qu'il faut innover dans ce domaine-là. Mais il est évident que celui qui sera le leader du Parti Socialiste devrait être en position d'exercer une influence majeure dans le cadre de la préparation de ces élections. Mais il faudra être au clair sur les alliances. Il faudra aussi que François Bayrou le soit. Parce que si moi, par exemple, je n'ai pas fait alliance à Évry, c'est parce que dans la ville d'à côté, à Corbeil-Essonne, le MoDem soutient Serge Dassault. Et François Bayrou, qui a désavoué cette alliance... montre bien qu'il a lui-même aussi un problème de stratégie.
François Bayrou, c'est d'être président de la République et d'empêcher un socialiste de le devenir.
Oui, c'est bien légitime. C'est la raison pour laquelle il nous faut aussi un leadership fort, parce que les institutions de la Ve République et l'élection présidentielle, et nous l'avons vu encore il y a un an, peuvent effectivement faire émerger un homme ou une femme, mais en l'occurrence un homme, un peu seul, mais qui peut représenter, si nous n'avons pas un leadership fort et des propositions concrètes, qui peut s'imposer. Donc, raison de plus pour bâtir ce leadership fort le plus vite possible.
Sur les questions de fond qui vous seront posées, il y a des questions qui sont posées, bien sûr, autour de la sécurité, et demain, Nicolas Sarkozy recevra des associations qui luttent pour que les délinquants qui présentent des risques de récidive soient davantage encadrés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Vous avez parlé tout à l'heure de la rétention de sûreté, la décision du Conseil constitutionnel. Le président de la République a confié au premier président de la Cour de cassation le soin de mener une mission pour voir comment il fallait se prévenir des délinquants qui présentent des risques de récidive. Cette question de la récidive aujourd'hui vous paraît être convenablement traitée ou est-ce qu'il faut faire évoluer la législation?
Non, c'est un vrai sujet. La question de la récidive, quelle qu'elle soit, mais évidemment quand il s'agit de grands criminels, notamment de grands criminels sexuels, il est normal que l'opinion soit attentive, émue. Il faut penser d'abord aux victimes. D'abord, c'est souvent la gauche qui, au pouvoir, a engagé les premières réformes sur cette question-là, notamment sur l'injonction en matière de santé au sein des prisons. Monsieur Clément, garde des Sceaux, dans la législature précédente, a mis en place le bracelet électronique. Il faut faire attention, même temps, parce que l'émotion est palpable et en même temps il faut respecter notre droit, notre constitution. Et puis il y a sans doute un effort énorme à faire sur l'état de nos prisons. Car au fond, s'il y a aussi de la récidive, c'est qu'on n'arrive pas à traiter la question de la sortie de la prison pour n'importe quel récidiviste. Et tant qu'on n'a pas mis des moyens considérables, notamment dans les secteurs psychiatriques, dans les prisons qui sont en grande déshérence, on aura toujours cette question de la récidive devant nous. Donc c'est des sujets qu'il faut aborder avec beaucoup de sérénité, en appliquant les lois qui existent déjà. Je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement légiférer à chaque fois, à chaque fait, à chaque événement qui se passe dans notre société. Il faut être évidemment impitoyable sur la récidive. Il faut être très dur avec les criminels. Il faut des peines de prison lourdes. Il faut du suivi pendant la détention et après. Et en même temps, il faut déjà appliquer les lois telles qu'elles existent.
La rétention de sûreté, le Conseil constitutionnel en a validé le principe. Oui. Elle entrera en vigueur dans 15 ans maintenant. C'est une loi qu'il faudrait garder, à votre avis, ou si vous reveniez au pouvoir, c'est une loi sur la rétention de sûreté qu'il faudrait supprimer?
Je crois qu'il faut la garder telle qu'elle. Évidemment, nous l'avons déféré au Conseil constitutionnel, notamment parce qu'il y avait ce problème de la rétroactivité. De ce point de vue-là, le Conseil constitutionnel a donné raison à l'opposition. Mais je souhaiterais qu'une majorité qui arrive, son premier acte ne soit pas de défaire ce qui a été fait par la majorité précédente. Ces questions-là sont encore une fois très sensibles dans l'opinion. Elles devraient faire l'objet d'un consensus entre la majorité et l'opposition, notamment sur les moyens qu'il faut donner non seulement au fonctionnement des prisons, mais au fonctionnement de notre justice. La commission Outreau, qui a fait un remarquable travail, aurait pu, à travers son bilan, à travers ses propositions, être le cœur de ce consensus entre la droite et la gauche sur la nécessité de mettre beaucoup d'argent pour réformer la justice. Parce que là aussi, il faut avoir le courage de dire aux Français qu'il faut avoir plusieurs millions, plusieurs milliards d'euros pour donner les moyens de fonctionnement à la justice. La justice pour les criminels, mais la justice tout simplement au quotidien qui dysfonctionne, et les juges et les avocats ou les greffiers sont confrontés tous les jours à ces problèmes de dysfonctionnement.
Pierre-Luc, c'est à Ivry, je crois, qu'a été construite la dernière cathédrale. Vous avez entendu le président de la République s'exprimer sur les questions religieuses. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce discours ou est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que, comme certains le disent, vous estimez qu'il menace la philosophie française républicaine de la laïcité?
Il crée de la confusion, surtout, vous savez, quand on parle de laïcité ou du rôle de la religion, là au Vatican, là à Riyad, là au CRIF, on donne le sentiment, encore une fois, que le cap n'est pas tenu. Le président de la République doit être le garant de nos institutions, de la conception très moderne et très ouverte qui est celle de la laïcité dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des évolutions. Je suis l'un des rares à gauche partisans d'un certain nombre d'évolutions, parce que je considère que notamment l'islam de France mérite d'être soutenu financièrement par des fonds publics, parce que je préfère des fonds publics à l'argent qui vient de l'étranger, notamment d'Arabie Saoudite. Et c'est la raison pour laquelle j'étais, pour ce qui me concerne, favorable à des aménagements législatifs ou réglementaires de la loi de 1905. Mais c'est le seul type de débat qu'on peut avoir très sereinement, sans, évidemment, même si ce sont des sujets sensibles, brandir immédiatement le drapeau de la laïcité. En même temps, la laïcité, c'est vivre ensemble, c'est respecter ceux qui ne croient comme ceux qui ne croient pas. Et les propos du président de la République ont donné le sentiment, au fond, que la religion s'imposait par rapport à toute autre croyance philosophique. Nous sommes certes un pays où il y a beaucoup de religions, mais nous sommes aussi le pays de la philosophie des Lumières. Nous sommes aussi le pays de la Révolution française et de la loi 1905.
Dans le cadre des aménagements, vous seriez favorable, par exemple, à ce que des associations cultuelles puissent bénéficier de subventions comme les associations culturelles?
Je suis favorable surtout à la mise en place d'une véritable fondation qui permettent, avec l'ensemble de ceux qui réfléchissent sur ces problèmes-là, de gérer des fonds publics et privés et personnels pour aider les religions qui émergent ou qui ont émergé dans notre pays au cours de ces dernières années à se faire toute leur place. La cathédrale d'Évry a été construite grâce aux dons des fidèles, mais son musée d'art sacré a reçu des subventions très importantes de la région, de l'État, à l'époque grâce à Jack Lang, et de la ville d'Évry. Je trouverais normal qu'on puisse aider aussi l'islam, les bouddhistes, les hindouistes qui vivent aussi sur notre territoire, et notamment à Évry, avoir décemment leur lieu de culte. Je préfère de l'argent public, encore une fois, à l'argent qui vient d'Arabie Saoudite et qui a changé profondément la face de l'islam dans le monde.
C'est un sujet voisin, mais différent, qui est celui des sectes. À nouveau, on reparle de l'église de Scientologie avec un problème très douloureux. Est-ce que vous êtes, comme certains de vos collègues, partisan d'une commission parlementaire sur ce sujet?
Mais il existe déjà une commission dans laquelle les parlementaires agissent. Mon prédécesseur Jacques Guyard, qui était député et président de cette commission, a eu maille à partir avec de nombreuses sectes, et notamment avec celles que vous avez évoquées. Et si on reparle de la Scientologie, c'est pas uniquement à travers un fait malheureux que vous avez raison de relater, c'est parce qu'il y a eu des déclarations de la part de la directrice de cabinet du président de la République qui ont nui au combat indispensable à l'égard du mouvement sectaire.
Vous qui vous présentez comme un rénovateur du Parti Socialiste, Manuel Valls, qu'est-ce que vous pensez du soutien de la Fédération de l'Hérault à la candidature de Georges Frêche aux élections sénatoriales?
Je le regrette. Je pense que la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault, comme la direction du Parti Socialiste, devrait être au clair sur cette candidature. Moi, j'aurais souhaité que Georges Frêche ne soit pas soutenu dans le cadre de cette campagne. Il y a des socialistes localement qui se battent avec beaucoup de courage. La rénovation, elle passe pas uniquement à Paris, elle passe partout.
C'est la fin de ce grand jury. Nous ne nous retrouverons pas dimanche prochain, ni le dimanche suivant, pour cause d'élections municipales. LCI RTL faisant par exemple des émissions spéciales à cette occasion. Et donc, le prochain grand jury aura lieu le 23 mars. Et on se retrouve tout de suite après pour la poursuite du grand jury de Manuel Valls. À tout de suite.